VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Ouagadougou, 14h à Libreville. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. Au Burkina Faso, plusieurs régions du nord et de l'est du pays sont constamment harcelées par les djihadistes et certaines sont même passées sous leur contrôle. C'est ce qu'affirme Guy-Michel Boulovi, journaliste aux Échos de Fadangourma, une grande ville de l'est. Ces secteurs jadis touristiques ont été désertés par les autorités locales et sont désormais classés zone rouge par les chancelleries occidentales en raison des attaques récurrentes et des risques d'enlèvement, souligne le journaliste. Les incursions islamistes ont fait 229 morts depuis 2015, selon le bilan officiel annoncé fin septembre par le ministre burkinabé des Affaires étrangères Alpha Barry aux Nations Unies. Les attaques sont essentiellement attribuées à Ansarul Islam et au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Mais d'autres groupuscules pourraient être aussi actifs, déclare une source sécuritaire qui estime les combattants à moins de 500. D'après les services de sécurité, les assaillants viennent non seulement du Niger et du Mali voisin, mais aussi du Burkina lui-même, contrairement à la rumeur répandue à Ouagadougou, on a tendance à accuser les étrangers. Afrique de l'Est toujours, de l'Ouest toujours, au Niger, la Cour de cassation de Niamey rendra sa décision le 19 décembre dans le procès des 8 militaires et un civil condamnés en janvier pour une tentative de putsch en 2015. Les détails avec Morgane Guiriec.
Trois officiers, dont le général Souleymane Salou, ancien chef d'état-major et ex-membre de la junte, et le lieutenant Ousmane Awal Ambali, qui avait bénéficié d'un non-lieu en 2012 pour un autre putsch présumé contre le président Mahamadou Issoufou, ont écopé de 15 ans de prison. Trois autres militaires ont été condamnés à 10 ans de prison. Deux soldats et un civil, Niandou Salou, le fils du général Salou, ont écopé de 5 ans d'emprisonnement. Selon le parquet, le plan du putsch prévoyait l'arrestation du président Issoufou le 18 décembre 2015 à son retour de Maradi. La veille, le président Issoufou, qui briguait un second mandat, avait affirmé qu'une tentative de coup d'État avait été déjouée. 12 militaires, 3 douaniers et une dizaine de civils ont été arrêtés. Par la suite, plusieurs de ces détenus ont été remis en liberté ou acquittés. Selon Maître Mohamed Maïga, les avocats de la défense, dont certains ont quitté le procès à son ouverture en janvier, ont plaidé l'inconstitutionnalité du code de justice militaire.
Relations États-Unis-Afrique maintenant. Les États-Unis vont réduire le nombre de leurs militaires déployés sur le continent africain et se concentrer davantage sur la réponse aux menaces posées par leurs concurrents russes et chinois. C'est ce qu'a déclaré le Pentagone jeudi. Actuellement, près de 7200 soldats américains se trouvent dans des dizaines de pays africains, notamment la Somalie, le Nigeria et la Libye. La porte-parole du Pentagone, Candice Stretch, a indiqué que ce nombre serait réduit d'environ 10% au cours des prochaines années, sans préciser quel pays africain serait concerné. Et toujours concernant la présence des militaires américains sur le continent africain, deux soldats américains des forces spéciales, les Navy SEALs, et deux marines ont été inculpés du meurtre d'un béret vert en Afrique. Le sergent-chef Logan Melgar a été étranglé dans sa chambre alors qu'il était en mission au Mali. Abdourahmane Dia.
Les quatre soldats sont mis en cause dans ce meurtre survenu en juin 2017 à Bamako, où les deux Navy SEALs partageaient une chambre avec la victime, Logan Melgar, 34 ans. Et depuis, la justice militaire menait son enquête sur les circonstances de cette mort. En plus du meurtre, les autres charges pesant contre eux sont complot, entrave à la justice, bizutage et cambriolage. Jusqu'à présent, personne n'avait été inculpé pour le décès du sergent-chef Melgar, même si un médecin légiste avait conclu à un homicide par asphyxie ou étranglement. Un porte-parole de l'unité d'élite de l'armée américaine a déclaré que cet incident ne reflète pas le comportement général des troupes déployées à travers le monde. Les soldats américains étaient au Mali dans le cadre d'une mission avec l'armée malienne pour combattre les djihadistes qui opèrent sur une bonne partie du pays.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
République démocratique du Congo, des violents combats continuent ce vendredi dans la région de Beni, dans l'est du pays, où 8 casques bleus ont perdu la vie dans le cadre d'une opération conjointe avec l'armée congolaise menée depuis le début de la semaine contre les rebelles ougandais, les ADF, les forces démocratiques alliées. Les combats se poursuivent à Mayangose, où nous continuons à pilonner les positions des ADF, un groupe de rebelles musulmans de l'Ouganda voisin, a déclaré à l'AFP le capitaine Mac Azukai, porte-parole de l'armée congolaise dans la région de Beni, province du Nord Kivu. Mayangose est un quartier périphérique de Beni, ville d'environ 300 000 habitants. Cameroun, le journaliste camerounais Michel Bien Tong a été écroué jeudi après avoir été inculpé d'apologie du terrorisme, déclaration mensongère et outrage au chef de l'État. Notre confrère est le promoteur du site d'information ourinews.com et il a été interpellé le 23 octobre par les services de la sécurité militaire, affirme son avocat. Selon le collectif de soutien qui s'est créé après son arrestation, l'interpellation de Michel Bien Tong est intervenu après une série d'articles dénonçant les multiples exactions de l'armée camerounaise dans les zones anglophones du Cameroun où un conflit oppose des séparatistes armés aux forces gouvernementales. Gabon, la Cour constitutionnelle gabonaise a rendu une décision mercredi soir permettant au Conseil des ministres de se réunir en l'absence du président Ali Bongo Ondimba. Ce dernier est hospitalisé depuis 3 semaines à Riyad en Arabie Saoudite. Aucune précision n'a été donnée sur son état de santé ni sur la date de son éventuel retour au Gabon. Éric Maniraquiza a joint hier à Libreville la présidente de la Cour constitutionnelle du Gabon, Marie-Madeleine Mborantsuo.
La décision ne modifie pas la Constitution. La décision qui a été prise sur le fondement de l'article 83 de la Constitution et l'article 88 de la Constitution permet de trouver une solution provisoire à une question qui n'a pas été traitée par la Constitution. Et c'est donc sur la base de cette saisine que la Cour constitutionnelle a statué.
L'opposition et la société civile vous accusent d'avoir opéré un coup d'État contre la Constitution.
Ben non, justement. C'est parce que nous ne sommes pas dans le cas de la vacance de la présidence de la République ou de l'empêchement définitif. Il fallait prévoir des dispositions provisoires pour régler le cas d'une indisponibilité temporaire si elle n'est pas prévue dans la Constitution actuellement.
Est-ce que ça a un délai?
Cette décision s'applique tout simplement pour l'instant, pour ce conseil des ministres qui est prévu, qui était imminent. Maintenant, si la semaine prochaine ou autre, le président de la République revient pour présider ce conseil des ministres, la décision ne s'appliquera pas. C'est tout juste une solution provisoire pour régler une situation particulière qui se pose aujourd'hui. Mais cela ne veut pas dire qu'il s'agit d'une modification de la Constitution. Ce ne sont pas des dispositions qui sont définitives.
Et le président y rentre bientôt?
Non, je ne suis pas au cabinet du président de la République ni au gouvernement. Je suis membre de la Cour constitutionnelle de la République gabonaise, donc relevant du pouvoir judiciaire. Je ne peux pas vous dire quand est-ce que le président de la République va rentrer.
Avant de rendre cette décision, vous vous êtes assuré quand même que le président ne pouvait pas être là?
De toute façon, il n'est pas à Libreville.
Et son agenda qui ne pouvait pas attendre le retour du président de la République?
Le Premier ministre a expliqué dans sa requête l'urgence d'adopter un certain nombre de textes. Il y a par exemple les emprunts qui ont été contractés par l'État et qui doivent être validés par le Parlement.
Quand est-ce qu'on peut déclarer la vacance de pouvoir?
La vacance de pouvoir est prononcée et constatée lorsqu'il y a par exemple le décès, lorsqu'il y a démission. C'est lorsque le poste de président de la République est vacant parce que le président en exercice est décédé ou le président en exercice a démissionné qu'on peut constater la vacance de la présidence de la République.
Non pas en cas d'absence prolongée.
Mais l'absence prolongée n'est pas une absence définitive. Ce n'est pas un empêchement définitif. Et là où nous sommes aujourd'hui, au moment où moi j'interviens sur vos antennes, nous ne pouvons pas parler d'absence prolongée. La Constitution est clair. Il s'agit de la vacance de la présidence de la République ou bien de l'empêchement définitif. Alors, il n'y a pas de notion d'absence prolongée et il est difficile aujourd'hui de parler d'une absence prolongée.
Marie-Madeleine Mborantsou, présidente de la Cour constitutionnelle du Gabon. En Ouganda, les tribunaux ont commencé à juger des centaines d'affaires de violences sexuelles restées au point mort, dont beaucoup de viols d'enfants, afin de désengorger la justice et de répondre aux doléances des victimes qui attendent depuis trop longtemps. Les juges de 13 tribunaux de civils ont pour objectif de juger en un mois 700 affaires de violences sexuelles, crime qui représente plus de 60% des infractions passibles de la peine capitale en Ouganda, selon Gardenia Paul Wolimbwa, juge de la Haute Cour qui coordonne cette initiative. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.